Il y a d'abord les deux textes liturgiques, ce troisième dimanche après l'Épiphanie, l'épître de saint Paul aux Romains. Mes frères, ne soyez point sages à vos propres yeux, ne rendez à personne le mal pour le mal. Ayez soin de faire le bien, non seulement devant Dieu, mais aussi devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, ayez la paix avec tous les hommes. Ne vous vengez point vous-même, mes bien-aimés, mais laissez agir la colère de Dieu, car il est écrit à moi la vengeance. C'est moi qui rétribuerai, dit le Seigneur. Au contraire, si votre ennemi a faim, donnez-lui à manger. S'il a soif, donnez-lui à boire. Car en agissant ainsi, vous amasserez des charbons de feu sur sa tête. Ne vous laissez point vaincre par le mal, mais travaillez à vaincre le mal par le bien. On se lève pour l'Évangile. Continuation du Saint-Évangile selon saint Matthieu. Ce temps-là, lorsque Jésus descendit de la montagne, des foules nombreuses le suivirent. Et voici qu'un lépreux vint à lui et l'adorant lui dit « Seigneur, si vous voulez, vous pouvez me purifier. » Jésus, étendant la main, le toucha en disant « Je le veux, soyez purifié. » Et aussitôt, sa lèpre fut guérie. Et Jésus lui dit, gardez-vous d'en parler à personne, mais allez, montrez-vous au prêtre et offrez le don que Moïse a prescrit, afin que cela leur serve de témoignage. Lorsque Jésus fut entré dans Capharnaüm, un centurion s'approcha de lui, le priant et disant, Seigneur, mon serviteur est couché dans ma maison atteint de paralysie et souffre extrêmement. Jésus lui dit, j'irai et je le guérirai. Et le centurion lui dit, Seigneur, je ne suis pas digne que vous entriez sous mon toit. Mais dis seulement une parole et mon serviteur sera guéri. Car moi qui suis un homme soumis à la puissance d'un autre, ayant sous moi des soldats, je dis à l'un, va, allez, et il va. Et à l'autre, venez, et il vient. Et à mon serviteur, faites cela, et il le fait. Et l'entendant, Jésus fut dans l'admiration et dit à ceux qui le suivaient, en vérité, je vous l'ai dit, je n'ai pas trouvé une si grande foi dans Israël. Aussi, je vous dis que beaucoup viendront de l'Orient et de l'Occident, et auront place au festin avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux. Mais les enfants du royaume seront jetés dans les ténèbres extérieures. Là, il y aura des pleurs et des grincements de dents. Alors Jésus dit au centurion, allez, et qu'il vous soit fait selon ce que vous avez cru. Et le serviteur fut guéri à l'heure même. Alors cette semaine, il y aura la messe tous les jours à 10h. Ce sera une personne qui va suivre une retraite cette semaine finalement. Donc elle logera dans la petite maison à côté. Donc elle viendra à la messe tous les jours évidemment à 10h. Et donc gardez bien silence avec elle, avec cette personne, pour qu'elle ne soit pas distraite dans sa retraite. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, mes bien chers amis, dans cet évangile d'aujourd'hui, selon saint Matthieu, notre Seigneur Jésus-Christ fait deux miracles. Ils se complètent l'un et l'autre. Deux miracles de personnes qui sont paralysées pour le deuxième miracle et lépreux pour le premier. Vous savez que tous les miracles, dans tous les miracles, notre Seigneur Jésus-Christ va prendre des choses matérielles qui représentent quelque chose de spirituel. Il élève les âmes de choses que les gens connaissent bien pour les monter à quelque chose que les gens connaissent mal. Ainsi, comme vous le savez, d'après tous les pères de l'Église, sont tous d'accord là-dessus, la lèpre représente le péché, la paralysie aussi. Pour bien montrer que le péché peut travailler sur chacun de nos sens. La lèpre, en général, représente le péché mortel. Pourquoi ? Parce que la lèpre est une maladie mortelle, surtout à l'époque. Elle représente le péché parce que au début, on ne la voit pas. Quand les premiers symptômes de la lèpre apparaissent, eh bien, c'est presque imperceptible. Des petites taches brunes sur la peau. Mais si on ne s'en occupe pas tout de suite, eh bien, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, la lèpre va manger littéralement. C'est une pourriture, c'est une maladie épouvantable. Une pourriture des muscles, une pourriture des os. Et évidemment, lorsqu'on s'en rend compte, c'est beaucoup trop tard pour la guérir. La paralysie, au contraire, le deuxième miracle, la paralysie représente une impossibilité pour la personne malade de se déplacer, de faire les choses par elle-même. Donc elle est obligée d'utiliser d'autres personnes comme intermédiaires. La paralysie représente d'abord la cédie. La cédie, c'est quoi? La cédie, c'est la paresse spirituelle. La paresse spirituelle. On a tous une paresse pour toutes les choses qui ne nous plaisent pas. Eh bien, quelqu'un qui est paresseux a du mal à faire ce qu'il doit faire pour se rapprocher du bon Dieu, ce qu'on va expliquer. Alors, il peut y avoir différents types de maladies. Il peut y avoir une lèpre qui va surtout s'attaquer, par exemple, aux membres, ça sera la paralysie. Il y a une lèpre qui va s'attaquer aux oreilles, ça sera une espèce de surdité spirituelle, des gens qui sont incapables d'écouter la parole de Dieu sans se mettre en colère tout de suite. Il peut y avoir une lèpre qui va s'appliquer plus aux yeux, ça sera une cécité spirituelle, des gens qui ne veulent pas voir la vérité, qui se cachent la vérité, qui se cachent la réalité. Il peut y avoir une lèpre qui va s'attaquer à la langue, ça va être une impossibilité de parler, une impossibilité de se confesser par exemple, parce que les gens ne veulent plus se confesser, n'osent pas accuser des péchés graves. Vous voyez comment la lèpre part sur beaucoup de choses, peut travailler beaucoup de choses. Alors voyons un petit peu ce que disent les pères sur le sujet. La lèpre représente donc le péché. Un péché c'est quoi? Aversio ad Deo, conversio ad creaturas, dit saint Thomas. Aversio ad Deo, se détourner de Dieu. Conversio ad creaturas, se tourner vers la créature. J'ouvre la porte de mon âme, je mets le bon Dieu dehors, et par la même porte que vient utiliser le bon Dieu pour me quitter, je fais rentrer une créature, quelle qu'elle soit. Ça peut être une personne, ça peut être une situation, ça peut être un objet, ça peut être n'importe quoi. Et donc à chaque fois que je fais rentrer une créature qui prend la place de Dieu, c'est une certaine forme d'idolâtrie. J'adore quelque chose de créé. Comme Dieu ne peut pas supporter l'adoration d'un faux Dieu, mais évidemment, dès que j'adore un faux Dieu, eh bien, le bon Dieu s'en va, et c'est évident. Alors, attention, beaucoup de gens considèrent un peu trop la confession un peu comme une machine à laver. Je me confesse, je suis de nouveau en état de grâce, alors je peux retourner jouer dans la boue, puisque je sais que j'ai une confession qui peut m'attendre après. Alors, attention à ça. Et les pères expliquent bien, dans les commentaires qu'ils donnent sur justement les lépreux, ils expliquent bien qu'il y a toute une série de conditions pour arriver à notre Seigneur. Première condition quand on est dans le péché, c'est de reconnaître qu'on est dans le péché. Ça, c'est pas évident. Il y a beaucoup de gens qui sont dans le péché jusqu'au cou, mais qui ne veulent pas reconnaître que c'est un péché. Comparaison toute simple, c'est avec un malade. Imaginez un malade qui ne veut pas reconnaître qu'il est malade, qui veut qu'il mette le médecin en face. Ah, mais j'ai rien du tout. Monsieur, vous avez quelque chose, certains signes que vous ne voyez pas, mais moi je les vois parce que je suis médecin, je suis docteur, je le vois. Attention, il y a des choses dont il faut s'occuper maintenant. Le malade ne veut pas reconnaître qu'il est malade. Tant que quelqu'un ne veut pas reconnaître qu'il est malade spirituellement, c'est-à-dire tant que le malade ne veut pas reconnaître qu'il est en train de perdre la grâce du bon Dieu, il ne peut rien faire. Deuxième chose, bon, il faut d'abord une première grâce du bon Dieu pour aider cette personne à ouvrir les yeux, reconnaître qu'il est malade. Prenez par exemple, je donne un exemple tout simple. Prenez par exemple quelqu'un qui vit tranquillement avec la femme du voisin. Bon, il est catholique, il vit avec la femme du voisin. Il est évident qu'il vit en état d'adultère. Bon. Et puis il se dit, oh, tout le monde le fait, donc le monde entier vit comme ça, donc je peux continuer de vivre comme ça tranquillement. Tant qu'il est dans cette situation, qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Donc il faut qu'il reçoive d'abord une première grâce, c'est que le bon Dieu peut donner des grâces même à des gens qui sont en péché mortel. On appelle ça des grâces actuelles. Le bon Dieu va donner une grâce à cette personne, d'abord pour qu'il ouvre les yeux, l'ouvre l'intelligence, l'ouvre le contact avec notre Seigneur Jésus-Christ par son âme, pour qu'il reconnaisse, attention, Dieu a dit que les adultères ne posséderont pas le royaume des cieux. Donc je suis dans une situation de péché. Première aide de grâce, donc reconnaître que je suis dans une situation de péché. Ça ne suffit pas. Ah, monsieur, vous avez raison, je suis vivant dans une situation de péché. Ouais, tout le monde le fait, j'y reste. Deuxième grâce, il faut recevoir la grâce de la contrition. Grâce de la contrition. Grâce de la contrition, ça veut dire quoi? Ça veut dire regretter son péché et éviter les occasions prochaines volontaires de péché grave. Donc si je ne reçois pas cette deuxième grâce qui va me faire regretter le péché que j'ai commis, encore une fois, ça ne sert à rien. Donc il faut regretter, il faut au moins minimum, dit le catéchisme, avoir une contrition imparfaite. Ça veut dire quoi? Ça veut dire regretter son péché par peur de l'enfer. Bon. Il y a des gens qui ont une contrition purement naturelle. Quelqu'un qui a une contrition naturelle ne peut pas recevoir l'absolution. Parce qu'il faut que le bon Dieu intervienne pour donner dans cette maître et dans cet âme un regret surnaturel du péché. C'est l'enseignement du catéchisme. Il y a des gens qui ont une contrition naturelle pour leur péché. Je vous donne un exemple tout simple. Imaginez quelqu'un, un père de famille qui a bien un coup de trop avec ses amis. Il a bien un coup de trop, alors Il rentre à la maison, il est complètement hors de lui parce qu'il a bu trop, il a trop bu, et puis il donne des noms d'oiseaux à sa femme, à ses enfants, il se bagarre avec tout le monde, il casse tout dans la maison. Bon. Et puis, quelques jours plus tard, il dit, mince, ma femme me fait la tête maintenant depuis 3 jours parce que j'ai tout cassé dans la maison, parce que je l'ai frappée, elle me fait la tête tous les jours, elle refuse de me faire à manger, ça va plus, je vais me confesser. Attention, ça c'est quoi ça? C'est une contrition purement naturelle, qu'est-ce que ça vaut pour la conversion? Rien, zéro. Il regrette pour des raisons naturelles. C'est pas mauvais de regretter pour des raisons naturelles, mais c'est pas insuffisant pour se confesser. Il faut moins regretter pour une contrition, par une contrition surnaturelle. J'ai fait des bêtises, j'ai trop vu, j'ai trop bu, j'ai tout cassé dans la maison, j'ai battu ma femme et mes enfants, j'ai été violent avec eux, et j'ai offensé le grand Dieu. Donc je ne peux pas rester comme ça, parce que si je meurs dans cet état-là, c'est l'enfer. Parce que j'ai peur de l'enfer, je me confesse. Deuxième grâce, la grâce de la contrition au moins parfaite. Deuxième pas, troisième grâce, s'approcher de notre Seigneur. Vous voyez très bien que le lépreux, il s'approche de notre Seigneur. Quatrième grâce, il l'adore. Tombe à genoux pour l'adorer, le reconnaissant comme Dieu. Ça ne suffit pas de s'approcher de notre Seigneur Jésus-Christ, il faut encore reconnaître notre Seigneur Jésus-Christ comme Dieu. Et puis, évidemment, cinquième grâce, accuser ses péchés, sans cacher les péchés importants, en expliquant l'accusation, c'est ce qu'on appelle l'accusation, en expliquant la matière du péché, si c'est grave, si c'est pas grave, si c'est un péché grave ou un péché véniel, en expliquant le nombre, les circonstances qui changent l'espèce du péché. Bon, par exemple, pour revenir au cas que je viens de citer comme exemple, imaginez un homme qui vit, enfin, qui s'est battu avec sa femme parce qu'il est trop bu, ce n'est pas simplement de dire au prêtre, au confessionnal, ben, oui, j'ai bien coup de trop. J'ai bien coup de trop, puis vous êtes battu avec votre femme, vous l'avez appelé, injurié, il y a eu des violences physiques, etc. Il faut expliquer un peu tout ça. Vous voyez? À ce moment-là, le bon Dieu, qu'est-ce qu'il fait? Remarquez bien. Allez vous présenter au prêtre. Pourtant, les prêtres de l'Ancien Testament n'ont aucun pouvoir, pratiquement pas. Ils ne peuvent pas pardonner les péchés, ils peuvent pas célébrer la messe. Le sacerdoce va arriver quand? Le sacerdoce va arriver plusieurs années après, attention, au début de la vie publique de notre Seigneur Jésus-Christ, le sacerdoce va arriver uniquement le jeudi saint, juste avant sa mort, 2 jours, la veille de sa mort, notre Seigneur Jésus-Christ va instituer le sacerdoce. Et donc il va instituer le pouvoir du prêtre de pardonner les péchés. Pourtant, déjà, notre Seigneur Jésus-Christ va envoyer le lépreux vers le prêtre de l'Ancien Testament, pour déjà préparer le sacerdoce. Le prêtre de l'Ancien Testament représente le sacerdoce éternel, c'est-à-dire le sacerdoce de notre Seigneur Jésus-Christ, les grands prêtres, mais ce sacerdoce que notre Seigneur Jésus-Christ va transmettre aux prêtres catholiques. Et le lépreux guéri. Vous voyez toute cette chaîne de grâce qu'il nous faut demander avec humilité. Le deuxième miracle est encore plus beau. Le deuxième miracle, je trouve ça admirable. Voilà un païen, un centurion. Qu'est-ce qu'un centurion? Un centurion, c'est un soldat romain qui est en charge de 100 personnes, 100 soldats, parce qu'on l'appelle un centurion. Centurion, c'est un païen. Ce païen, tout païen qu'il est, il vient trouver notre Seigneur Jésus-Christ. Et chose admirable, et c'est très rare dans l'évangile, il ne demande pas quelque chose pour lui. Il ne vient pas comme le premier lépreux, venir voir notre Seigneur, il vient pas venir voir notre Seigneur Jésus-Christ pour demander la guérison pour lui, même pas. Il demande la guérison pour un serviteur. Et dans l'époque romaine, en général, les serviteurs, c'était des esclaves. Donc voilà cet homme qui est un païen qui vient voir notre Seigneur Jésus-Christ, qui fait suffisamment confiance à notre Seigneur Jésus-Christ pour reconnaître que cet homme, notre Seigneur Jésus-Christ, a le pouvoir de guérir. Et il demande une guérison à un paralytique dans sa maison qui est vraisemblablement un esclave. Et encore plus extraordinaire, quand notre Seigneur Jésus-Christ dit « J'irai le guérir », cet homme fait un acte de foi extraordinaire. Qu'est-ce qu'il va dire? Vous n'avez pas besoin d'y aller. Vous êtes Dieu. Vous pouvez tout. Je ne suis pas digne que vous rentriez dans ma maison. Il dit seulement une parole et mon enfant sera guéri. Il appelle son enfant alors que c'est son serviteur. Et cette phrase a tellement frappé l'Église catholique que l'Église va la reprendre telle qu'elle, elle va la répéter 6 fois dans la messe. 3 fois avant la communion du prêtre, Domine non sum dignus, 3 fois, et 3 fois avant la communion des fidèles. Pour montrer justement l'extraordinaire foi de cet homme. C'est extraordinaire pour quelqu'un qui était un païen. Vous voyez? Et là, je pense qu'il faut bien, bien comprendre ce qui se cache derrière, parce qu'il y a une autre chose qui se cache derrière ce miracle, auquel on ne pense pas souvent. Qui représente? Alors, le paralytique, je vous l'ai dit, c'est celui, ce qu'on appelle l'assédie, donc celui qui est trop paresseux ben, pour se rapprocher par lui-même de notre Seigneur Jésus-Christ. Monseigneur Lefebvre nous disait tout le temps au séminaire, il y a deux amours qu'il ne faut jamais perdre. L'amour de la prière, l'amour de l'étude. Celui qui perd l'amour de la prière et l'amour de l'étude va tomber dans un sédit. Il ne va plus comprendre l'importance de la prière, l'importance de l'étude pour conserver la foi. Si la France est devenue un pays païen, c'est parce que depuis des années et des années, la plupart des catholiques en France ont perdu l'amour de la prière, l'amour de l'étude. Ayant perdu l'amour de la prière, comme ils ne prient plus, ils ne vont plus au sacrement. Donc ils vont perdre l'amour de la confession, l'amour du sacerdoce, l'amour de la messe, se détacher de tout ça, évidemment, vivre dans le péché mortel jusqu'au cou. Une fois qu'ils vivent dans le péché mortel jusqu'au cou, il est facile pour le démon de rentrer dans ses âmes et d'en faire ce qu'il veut. Alors, que représente ce centurion? Qui est cette personne qui a suffisamment de foi pour aller demander à Dieu la grâce pour quelqu'un d'autre, qui va intervenir pour obtenir qu'un esclave puisse être guéri par notre Seigneur Jésus-Christ. Qui est cette personne qui est l'intermédiaire entre le pécheur et notre Seigneur Jésus-Christ? Cette personne, c'est la Sainte Vierge. Quel est le rôle de la Très Sainte Vierge Marie? Le rôle de la Très Sainte Vierge Marie, c'est justement d'aller faire l'intermédiaire entre le pécheur et notre Seigneur Jésus-Christ. Et remarquez que vraisemblablement, même si ce n'est pas dit dans l'évangile, l'esclave qui était paralysé, donc qui ne pouvait plus rien faire, il n'a même pas osé sans doute demander sa guérison par l'intermédiaire de son maître. Peut-être qu'il ne connaissait même pas notre Seigneur. Il n'a même pas eu besoin de demander. Le maître, le centurion, a une telle charité pour son esclave que par lui-même, il prend la route, il va trouver notre Seigneur Jésus-Christ, dont il avait entendu parler, il fait un acte de foi extraordinaire en disant « Cet homme, en fait, est plus qu'un homme, il n'est pas simplement un homme, il est manifestement aussi Dieu, il a le pouvoir de guérir mon serviteur, il n'a même pas besoin d'y aller parce qu'il est Dieu, donc il peut faire tout à distance, et d'ici là où il est, il va guérir mon serviteur. » Conclusion, il faut qu'on fasse pareil. Nous, on est un peu des paralytiques, hein, plus ou moins, différents degrés. On est sur un lit de douleur, on ne peut pas faire grand-chose par nous-mêmes. Qu'est-ce qu'il faut faire? Mais si on a une dévotion envers la Sainte Vierge Marie, la Mère de Dieu, qu'est-ce qu'elle va faire, la Sainte Vierge? On n'a même pas besoin de lui demander, elle connaît nos besoins. La Sainte Vierge Marie qui voit son fils, n'oubliez pas que, ici, dans l'Évangile, il est parlé de son enfant. L'esclave est considéré par le centurion comme son enfant. Eh bien, pour la Très Sainte Vierge Marie, nous sommes ses enfants. Rappelez-vous la formule, belle formule de Saint-Louis-Marie Grignon de Montfort. Serviteur de Marie ne peut périr. Bon, serviteur de Marie ne peut périr parce que les serviteurs de Marie sont ses enfants d'une façon toute particulière. Et la Très Sainte Vierge Marie qui connaît ses enfants, sans même qu'on le demande, va aller voir son fils en disant « Mon serviteur est malade. Mon fils est malade. Ma fille est malade. Mon enfant est malade parce qu'il ne s'est pas confessé, il ne s'est pas confessé depuis je ne sais pas combien de temps, et elle a besoin d'aide. Cette personne est paralysée. Cette personne ne peut pas venir par elle-même. S'il vous plaît, faites quelque chose, vous n'avez pas besoin d'y aller, puisque vous êtes Dieu. Sainte Vierge Marie sait très bien que notre Seigneur Jésus-Christ est Dieu. De là vous êtes, guérissez-le. Notre Sainte Vierge Marie va répéter à son fils cette même formule. Seigneur, je ne suis pas digne que vous entriez sous mon toit. Dis simplement une parole, ça suffira, mon serviteur sera guéri. Nous sommes les enfants de notre Sainte Vierge Marie. Et les conclusions de ce texte très beau de Saint Matthieu sont énormes. Première conclusion, l'importance de la dévotion vers notre Sainte Vierge Marie. Sans dévotion vers notre Sainte Vierge Marie, on ne peut rien faire. Pourquoi? Parce qu'elle est médiatrice de toutes les grâces. Et cet exemple est clair dans l'évangile d'aujourd'hui. Elle est médiatrice de toutes les grâces, et qu'il n'y a pas une seule grâce que le bon Dieu nous donne sans passer par elle. C'est un peu un mystère, mais c'est comme ça. la grâce de la conversion, toutes ces grâces que je viens de vous énumérer, la grâce de reconnaître qu'on est en état de péché, la grâce de regretter son péché, la grâce de s'approcher de notre Seigneur Jésus-Christ, la grâce d'adoration, la grâce d'accuser tous nos péchés correctement, et la grâce de l'absolution du bon Dieu, toutes ces grâces viennent de la Sainte Vierge. C'est par elle qu'elles passent. C'est pas elle qui les fabrique, ces grâces, attention. Les grâces sont créées par notre Seigneur. Mais il les donne, il les distribue par l'intermédiaire de sa mère. Pourquoi? Parce que c'est par elle qu'il a reçu son humanité. Et lorsque le monde devient de plus en plus froid, il se coupe de la Sainte Vierge. On le voit très bien aujourd'hui. Le mépris des hommes modernes, même dans l'église de Vatican II, on le voit très bien, le mépris pour la très Sainte Vierge Marie. Mais le mépris pour la très sainte Vierge Marie va entraîner l'impossibilité de recevoir des grâces. Saint Thomas d'Aquin, encore lui, qui dit que le bon Dieu peut pardonner tous les péchés contre lui. Il ne pardonnera pas les péchés contre sa mère, les offenses à sa mère. Notre Seigneur Jésus-Christ pardonne les offenses contre sa divinité, à condition qu'on les regrette. Mais les offenses contre sa mère, contre sa très sainte mère, c'est une autre paire de manches. Bon, bien sûr, comprendre cette phrase de Saint Thomas, reprise par d'autres saints, après lui et avant lui, en fait, le bon Dieu pardonne tout péché à condition qu'on les regrette. Mais pour regretter une offense faite contre la Sainte Vierge Marie, qu'est-ce qu'il faut? Il faut une grâce spéciale du bon Dieu. Et si on s'est coupé de la Sainte Vierge Marie, comment voulez-vous qu'on les reçoive ces grâces? Plus possible. Donc la première conclusion de ce magnifique évangile d'aujourd'hui, c'est justement ça, comprendre l'importance de la dévotion envers la Sainte Vierge Marie. Les pères de l'Église comparent notre Sainte Vierge Marie au cou qui réunit la tête et le corps. Saint Bernard, il compare notre Sainte Vierge Marie, une très belle image de Saint Bernard dans un sermon fameux, il appelle l'aqueduc. L'aqueduc, c'est quoi? C'est un pont, canal, qui amène l'eau de la source à la ville. Si l'aqueduc est coupé, plus d'eau, on a tous de soif. Notre Sainte Vierge Marie, elle est l'aqueduc des grâces. C'est elle qui amène la grâce sanctifiante qui vient du Sacré-Cœur de notre Seigneur jusqu'à nous. Donc l'eau peut passer dans un sens. Donc notre Sainte Vierge Marie va intervenir pour dire à son fils, mon fils adoptif est paralysé. Et notre Seigneur Jésus-Christ va donner les grâces. Notre Sainte Vierge Marie refait traverser la grâce dans l'autre sens, sur le même aqueduc, pour arriver à la personne, pour que la personne puisse être guérie. Le deuxième message qui est dans cet évangile, c'est l'importance de la confession et l'importance du sacerdoce. C'est évident que ces deux sacrements sont unis. Ces deux sacrements sont unis, il n'y a plus de prêtre, il n'y a plus de confession. Et s'il n'y a pas de prêtre, il n'y a pas de sacerdoce. Le sacerdoce, c'est celui qui donne les choses sacrées. C'est l'étymologie du mot sacerdoce. En latin, c'est sacra, danse. Danse, c'est le participe présent du verbe donner. En latin, dare, danse. Danse, sacra, danse, celui qui donne les choses sacrées. Donc, en quelque sorte, le prêtre, si vous voulez, va jouer le rôle de la très sainte Vierge Marie. Il est l'intermédiaire des grâces. L'intermédiaire des grâces. Mais à un degré encore supplémentaire par rapport à la très sainte Vierge Marie. C'est quelque chose d'extraordinaire. Le prêtre est au-dessus de la Sainte Vierge sur certaines choses. Est-ce que la très sainte Vierge Marie peut pardonner un seul péché véniel? Elle ne peut pas. Est-ce que la très sainte Vierge Marie, elle qui est mère de Dieu, peut prendre un bout de pain, prononcer les paroles de la consécration et changer la substance du pain en substance du corps de notre Seigneur? Elle ne peut pas. Est-ce que la très sainte Vierge Marie peut prendre une goutte de vin et changer la substance du vin au sang de notre Seigneur? Elle ne peut pas. Le prêtre peut. C'est incroyable, mais c'est comme ça. Dieu a donné au prêtre des grâces qu'il n'a pas voulu donner à sa mère. Un grand mystère. Cependant, la grâce du sacerdoce, elle aussi, passe par la très sainte Vierge Marie. Et donc, demandons, en cette fin de cycle liturgique, puisque c'est que dès dimanche prochain, nous commençons un nouveau cycle liturgique, une nouvelle époque liturgique, puisque ce sera déjà le temps de la Pâque étant assez tôt cette année, 4 avril. Donc, dès dimanche prochain, c'est la Septuagésime, préparation du carême. Septuagésime, ça veut dire 70 jours avant Pâques. Alors, Septuagésime, Sexagésime, Quinquagésime, mercredi des cendres et le carême. Donc demandons à la très sainte Vierge Marie de nous aider à profiter Toutes ces grâces, c'est une série de grâces que le bon Dieu veut nous donner pendant la Sainte Messe. C'est une série de grâces que le bon Dieu veut nous donner à chaque fois que nous récitons notre chapelet. Toute une série de grâces que le bon Dieu veut nous donner pour augmenter en nous la grâce sanctifiante, augmenter l'amour que nous devons avoir pour notre Seigneur et pour sa Sainte Mère. Et ces grâces, elles passent toutes par elle. Donc demandez au bon Dieu l'amour de la très Sainte Vierge Marie, l'amour du sacrement de pénitence, la nécessité de se confesser régulièrement. On sait beaucoup, tous nos fidèles adultes, de se confesser une fois par mois. Et même dans certains cas, plus souvent, quand il y a des périodes difficiles, des périodes de tentation, des périodes de désolation, que sais-je, se confesser plus souvent. Donc l'amour de la Sainte Vierge, l'amour du sacrement de pénitence et l'amour du sacerdoce. Remerciez le bon Dieu pour le prêtre, le sacerdoce que le bon Dieu vous a donné, même si la belle fille n'est pas parfaite, loin de là, vous le savez très bien, il est le représentant du bon Dieu. C'est comme ça. Le bon Dieu vous a donné des grâces extraordinaires. Hein. Vous pensez à tous ces gens qui pleurent parce qu'ils n'ont pas de messe. Hein. Les gens qui pleurent parce qu'ils n'ont pas de messe. Vous avez la messe tout proche de chez vous. Utilisez-la, cette messe. Parce que le bon Dieu, le jour où vous allez mourir, il va... lui, il a une bonne mémoire. Hein. Il va dire, mais dites donc, vous habitiez à 2 km de la baie, non? Et vous habitiez à 30 km de la baie. Ça veut dire que vous aviez la possibilité, le Saint-Sacrement, de la confession quand vous voulez, la messe quand vous voulez. Vous utilisez toutes ces grâces? Oh, bon, moi, j'étais un peu fatigué, mon Dieu, vous comprenez, j'ai pas trop utilisé tout ça. Comment? Vous aviez tout ça à votre porte et vous n'avez pas utilisé toutes ces grâces? Mon Dieu, vous tirez les oreilles, hein? Donc, vous ne pouvez pas vous faire tirer les oreilles par le bon Dieu, augmenter dévotion à Sainte Vierge, dévotion à la confession et dévotion au sacerdoce. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.